468 km par recharge, l'ID4 allie performance et durabilité. Dépêchez-vous afin de profiter du 12 000 en remise gouvernementale. Disponible maintenant pour livraison rapide, vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet automne.
Il y a quelqu'un sur la hotline, allô Boulevard?
OK.
Rage Against le matin, l'open mic, le pit stop, Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, le volume au max, le rock and chill, le boulevard du rock, le volume à planche. Boulevard 102.1, bon la semaine, la fin de semaine, qui t'informe sur ce qui se passe à Québec et ailleurs. Des gros dossiers comme les petites niaiseries.
Moi, je serai vous?
Je vous écouterai. Sans oublier le meilleur de la musique rock, de tes années grunge et pop-punk à aujourd'hui.
Non, moi, je serai nous? Je vous... Non. Maintenant, il faut nous écouter.
Bravo!
Oui! On est content de vous retrouver.
Pour vrai, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Bienvenue dans Marceau Soir. Très content d'être avec vous encore une fois ce soir. Notre invité, c'est un chroniqueur automobile. C'est tout un chroniqueur automobile. Et à mes yeux, c'est un des meilleurs. Samuel Tremblay-Michaud, comment ça va?
Ça va bien. Bon, c'est un bel honneur, ça, quand même.
J'étais un gars de même. Et en plus, à chaque fois que tu es là, j'ai du plaisir comme pas possible. Puis même pendant la pause, tantôt, je t'entendais répondre au téléphone. Tu dis, voyons, t'as marre, c'est supposé d'être chez nous, ça. Puis on dirait que c'était un appel fake. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, je me suis dit, tiens, je vais apprendre d'autres choses avec Samuel Tremblay-Michaud. Les fameux fraudeurs utilisent des trucs actuellement qui peuvent laisser craindre le pire pour les gens qui sont peut-être un peu plus âgés. T'sais. Ils voient Desjardins affichés sur leur cellulaire.
Ah, ouais?
Ah ben c'est quelqu'un de chez Desjardins. Ils répondent, puis finalement, c'est pas quelqu'un de chez Desjardins, c'est quelqu'un qui est un fraudeur, qui utilise un genre de logiciel qui fait en sorte que lui se fait passer pour Desjardins, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est t'hameçonner puis avoir ton argent.
Mais c'est impressionnant, tu sais, tantôt le numéro de téléphone, c'était 418. Ouais. Tu sais, honnêtement, ça m'arrive d'avoir des appels. Des fois, tu sais, je contacte quand même plusieurs paliers de gouvernement, mettons, pour des questions avec la SAC ou avec, je sais pas, là, des fournisseurs de pièces automobiles ou des constructeurs automobiles ou des gens qui représentent le milieu. Fait que ça m'arrive d'avoir souvent des appels de gens que je connais pas nécessairement leur numéro de téléphone.
Ouais.
Fait que, tu sais, j'ai pas juste des appels de mes contacts. Fait que moi, quand je vois un numéro, mettons, Californie ou Inde ou
c'est
Arabie Saoudite...
On répond pas.
Ben non, c'est facile de flusher, tu sais. Mais quand ça commence par 418, je réponds tout le temps, là. Ouais. Juste m'assurer que je raccroche pas à quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis là, quand j'entends la fameuse voix robotisée me dire que mon colis est pris aux douanes et que si j'envoie pas rapidement de l'argent, je pourrais aller en prison, ben là, je me dis, ça y est, encore une fois, ils ont réussi à me détourner l'attention puis à m'avoir. Dans le fond, j'ai répondu.
Ouais, mais là, t'es dans la jeune trentaine.
Pas encore.
Pas encore.
Bientôt.
Bon. T'es dans la fin vingtaine.
Ouais.
OK. Imagine-toi si t'as 65 ans.
Ah non, je
que
sais.
Que tu fais dire que t'as un colis qui s'en vient... Tiens, 75. Tu te fais dire que tu as un colis qui s'en vient.
Au moins, c'est en anglais.
Si tu ne les rappelles pas, si tu ne payes pas, ben ton colis va partir ou tu peux peut-être même faire de la prison. Tu sais, ça se peut que tu embarques là-dedans.
Puis je comprends le monde. Il faut comprendre. Puis c'est ça que je lisais dernièrement aussi. C'est drôle, mais je pense que c'est le service de police de la Ville de Québec même qui avait fait un article ou un communiqué là-dessus sur.
La fraude Desjardins.
Oui, puis la qualité des fraudes aussi, à quel point ça s'améliore tristement. Tu sais, tout s'améliore. Les fraude aussi, tu sais. Puis ça devient, tu sais, même les voix robotisées là, qui te font croire que ta petite fille s'est faite kidnapper.
Ouais.
Puis qu'il faut que tu envoies de l'argent. Hey, on est rendu loin, là.
Ah, c'est hallucinant. Il faut être extrêmement méfiant. C'est pour ça que c'est important d'en parler pour dire à quel point ces fraudeurs-là sont à jour. Tu sais, dans le temps, les voleurs faisaient des dépanneurs. Les voleurs, ils faisaient des banques. Puis là, ils arrivaient lourdement armés. Puis, tu sais, ils risquaient leur propre vie. Ouais. Ou encore, il y en a qui étaient plus wise. Ils creusaient un tunnel pendant des semaines et des semaines en dessous de la banque pour eux, ça, arriver au coffre-fort. C'était nos vieux films d'antan. Oui, oui. À cette heure, c'est plus ça. Ils sont derrière leur ordinateur, puis ils pensent sale, puis ils réussissent à hameçonner des gens qui sont pas encore à jour au niveau des fraudes. Puis même des fois, quand tu es à jour, il y a un policier qui nous avait jasé sur les ondes de boulevard qui avait dit « Ben moi aussi, je me suis déjà fait avoir avec un courriel. »
Ben oui.
Lui, c'était de mémoire, c'était pour un chèque de paye. Donc, pour avoir accès à votre T4 ou tout ça, il avait cliqué là-dessus, puis à partir du moment où tu cliques là-dessus, ben ton portable est infiltré. Là,
ben j'aime toi, hein. C'est rendu tellement raffiné que ça me nétrisse.
Exact. Hey, le merveilleux monde de l'automobile, toi, tu reviens-tu de voyage ou tu pars-tu bientôt? Là?
Un mix des deux. Je suis arrivé hier à Québec, je repars demain.
OK.
Fait que c'est très petit séjour à Québec.
Tu te rends célibataire, là?
Non. D'ailleurs, je remercie ma conjointe.
Il te reste très peu de temps.
Ouais, là, c'est comme une grosse séquence. Puis, un peu comme dans tous les domaines, il y a des plus fortes périodes que d'autres. Et l'automne est souvent une période très forte dans l'automobile. Il y a plusieurs lancements qui ont lieu parce que c'est synonyme de prochaine année aussi. Tu sais, quand tu lances un auto en avril pour le modèle 2025, puis t'es dans l'année 2024 qui vient de commencer, le monde sont comme là, t'as peu. Là, on peut-tu prendre le temps de commencer 2024 avant de me parler de modèle 2025? Donc, les constructeurs aiment ça souvent plus vers le milieu de l'été, là, commencer à faire plus de lancements sur des modèles 2025 qui vont s'en venir. Puis là, ben, c'est vraiment un concentré de lancements, même qu'on doit en refuser. Hein. Tu sais, des fois, les gens pensent qu'on se fait payer là, par les constructeurs. Il y a même du monde qui se disent « Oh, c'est bien, toi, tu gagnes ton argent des constructeurs automobiles. »
T'as un chèque pour dire que le Lincoln Navigator, c'est le meilleur showroom.
Ah ouais, puis RPM, c'est une gang de vente. Tu sais, souvent, j'entends ça. Puis je me signe avec le monde, j'aime bien ça d'ailleurs. Puis, mais tu sais, on n'a pas le choix des fois de refuser juste parce qu'on ne peut pas couvrir tout. Puis là, ben, les manufacturiers, des fois, sont bien déçus parce que la raison pour laquelle ils nous invitent, c'est qu'ils veulent avoir l'exposure, ils veulent avoir ce que RPM peut leur donner comme plateforme de lecture, de visionnement et compagnie. T'sais. Fait qu'eux sont comme, hey, c'est plate parce que je sais que j'aurais pas les auditeurs, j'aurais pas les gens d'RPM qui vont voir mon véhicule lorsqu'il va être lancé. Nous autres, après ça, notre job de journaliste, c'est pas juste de dire que tout est beau, tout est fin, parce que sinon, je serais un influenceur. Puis honnêtement, c'est pas ça mon but dans la vie. T'sais. Je travaille pas pour devenir influenceur.
Il y a un lien de confiance aussi. Puis Pierre Michaud,
tu t'es toujours battu pour ça.
C'est un homme d'affaires, puis il a toujours conservé ce lien de confiance-là avec son auditoire ou encore les auditeurs quand ils passaient à la radio. Quand ils aimaient, ils aimaient. Quand ils aimaient pas, ils aimaient pas. Puis il n'y avait aucun chèque qui venait avec ça.
Jamais. Puis à vrai dire, c'est une des beautés de la chose. C'est que je trouve que c'est le fun parce qu'on est encore invité pareil. Ça veut dire que les constructeurs automobiles disent, ben même si des fois, c'est pas toujours parfait. Tu sais, justement, j'arrive d'un voyage avec Lincoln, puis j'ai pu conduire le nouveau Aviator 2025. T'sais. C'est un produit à faible diffusion qu'on a ici. Puis à 85 000 malheureusement, il est trop cher.
Ah, il est trop cher?
Beaucoup.
Moi, j'ai embarqué là-dedans, pas dans celui que tu as essayé, mais je pense que c'est un peu plus vieux, 2-3 ans de mémoire, et c'était avec la gang d'Occasion Ville de Québec à l'époque. Fait que il m'avait fait embarquer là-dedans, puis hey, c'était le gros confort. Mais moi, c'était un véhicule que j'essayais pour le plaisir. Je ne l'ai même pas eu 24 heures, puis c'était vraiment le gros confort, mais je ne suis pas capable d'évaluer le moteur et tous les défauts de ce véhicule-là.
Bien, là, ça dépend. On parle du Navigator ou du Aviator. Parce que là, il y a deux modèles chez Lincoln qui se ressemblent beaucoup. Moi, je te parle du Aviator.
Fait que moi, c'est le Navigator.
Toi, c'est le Navigator, le gros, c'est ça.
Voilà.
Écoute, dans ce voyage-là, j'ai pu aussi assister au lancement du Navigator, qui est vraiment le gros camion dans le film Quand est-ce qu'on arrive avec Ice Cube. Là.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens de ce film-là. Là,
Ben,
c'est ça que Ice Cube conduit dans ces films-là, son camion noir là, qui veut pas que les enfants salissent à l'intérieur. Ma référence est un peu obscure, mais je l'assume.
Tant que les auditeurs savent de quoi tu parles, c'est correct.
Ben, tu sais, je suis comme, pourquoi je pense à ça? Mais regarde, des fois, c'est comme ça. Puis le Navigator, dans le fond, c'est vraiment le gros véhicule de la marque. C'est vraiment lui qui est le plus payant aussi. C'est lui qui coûte au-delà de 100 000 $ Lui, je ne l'ai pas conduit, mais j'ai pu voir la nouvelle génération qui est arrivée. On a fait le lancement. J'ai d'ailleurs rencontré Serena Williams durant ce moment-là parce qu'elle est porte-parole de Lincoln puis elle était là durant le lancement. Puis dans le fond, ce qu'on comprend rapidement, c'est que le Navigator, c'est un véhicule pour le marché chinois.
Okay.
Les Chinois adorent Lincoln.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
C'est l'idée du prestige. T'sais, en Chine, il y a vraiment le côté conduire une voiture, c'est aussi montrer son succès dans la vie. Là. C'est un bien de luxe, c'est un bien de succès. Il y a une nouvelle génération, par contre, qui commence à avoir un peu plus, comme nous ici, des envies de moins travailler, des envies de voyager un peu plus. Plus je dis moins travailler, mais je veux juste faire attention. Là. C'est juste de mieux mixer notre temps, peut-être. Là. C'est pas de moins mettre d'effort dans quelque chose, mais plus d'avoir une moins grosse charge de travail. Puis on voit aussi que les jeunes chinois commencent de moins en moins à avoir envie de ce luxe-là. Mais il y a vraiment une génération très forte dans le pays actuellement qui aime consommer les genres de brands qui sont synonymes de succès. Et Lincoln, c'est un peu l'idée du rêve américain. Tu sais, c'est un peu l'espèce de grosse voiture luxueuse américaine. Donc ça fonctionne bien.
Ouais, puis, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais des amis libanais. Puis eux, quand ils sont arrivés ici, ils voyaient pratiquement juste des Honda Civic ou des Geo Metro. Là, tu l'entends, des Geo Metro et tout ça.
Allez, ben.
Là, je leur disais, mais vous autres, c'est quoi les véhicules que vous avez? Les autres, c'est juste des BMW.
Ouais.
BMW, Mercedes, c'est le char. char. Là, tu disais, t'es peu, c'est des BMW, des Mercedes. Pour nous autres, c'est un produit extrêmement de luxe. Mais pour eux autres, c'est les chars que tout le monde avait.
Mais la relation n'est pas pareille. La relation est juste différente aussi. Puis, tu sais, il faut savoir une chose. Souvent, au Canada et en Amérique du Nord, tu sais, mettons, je prends BMW ou Mercedes,
ouais,
c'est très rare qu'on se fait envoyer les versions d'entrée de gamme des modèles. Souvent, on va avoir, mettons, dans certains pays, des versions qui sont plus des milieux haut de gamme, qui, nous, ici, sont nos entrées de gamme.
Ah, voilà.
Parce qu'on a des motorisations diesel en Europe, on a des versions manuelles encore de plusieurs modèles qui, nous, ici, on n'a jamais eu en version manuelle parce qu'on abaisse les coûts beaucoup. Puis, effectivement, en Europe, une Mercedes est plus une voiture populaire, mais aussi parce que la gamme de prix est vraiment différente. Là, il y a des Mercedes qui, ça reste un véhicule plus haut de gamme qu'un véhicule de grand marché, mais malgré tout, il y a une gamme de prix plus élastique, donc plus de consommateurs potentiels.
Et Lincoln que tu as essayé, t'as-tu aimé?
J'ai trouvé ça intéressant au niveau du rafraîchissement esthétique. C'est un camion qui veut pas une part marginale en Amérique du Nord de part de marché. C'est vraiment GM qui gagne cette catégorie-là, mais tu sais, pas à peu près, là. C'est les différences de chiffres entre les véhicules sont hallucinantes. Puis, tu sais, je peux vous sortir des stats rapidement parce qu'on en jase puis c'est plaisant. Il s'est vendu en 2023 119 Navigator au Québec. Puis, si on regarde du côté de l'escalade, mettons la version un peu plus cossue chez Cadillac, on est à 147. Là, vous me dites, OK, il n'y a pas une trop grosse différence. Mais si je regarde après ça, exemple, chez Chevrolet, avec le Tao, parce que c'est tout le même produit, c'est toute la même famille chez Chevrolet, le Tao, le Yukon également chez GMC, mais là, on est à 751 éditions, 626 de plus pour le Yukon seulement, et le Suburban est à 446. Donc, total tout chez Chevrolet, l'année dernière, on a dû vendre à grosso modo un 1800 camions de cette grosseur-là, et Ford en a vendu 119. Fait que, tu sais, on n'a vraiment pas une part de marché qui est significative en Amérique du Nord. Les raisons sont simples, là, c'est que justement, la diversification des motorisations chez GM est très forte. On a encore accès à des moteurs diesel. Les gens qui remorquent apprécient beaucoup cette motorisation-là, le Duramax. C'est fiable, ça va bien, puis ça remorque bien également. Tu as vraiment une grande gamme d'équipements aussi. Tandis que chez Lincoln, de base, tu as le gros modèle. Fait que tu arrives chez Lincoln, tu rentres les pieds dans le concessionnaire, puis ils vont te vendre seulement la grosse édition.
As-tu l'impression que cette entreprise-là aurait avantage à nous donner peut-être une entrée de gamme?
Peut-être, mais tu sais, au bout de la ligne, GM compte déjà très bien cette part-là. Puis de faire bouger les gens dans des chiffres de 100 000 $ là, c'est dur de se dire, OK, du jour au lendemain, je change complètement mon camion pour ce gros camion-là. Tu sais, je parle même pas des autres compétiteurs. Chez Toyota, on a quand même le Sequoia qui est dans l'univers des gros camions de luxe quand même. Moins luxueux, mais capable aussi de remorquer en masse. Donc, tu sais, quand on regarde le marché actuellement, on se dit, bon, ben, il n'y a pas tant d'options pour Lincoln que d'y aller all-in. Puis c'est ça qu'ils font actuellement.
Je serais curieux pour les auditeurs. Ça deviens-tu sectaire à un moment donné, le camion que tu 100%. Utilises?
100%. C'est ouais. 100%. Il n'y a aucune hésitation avec ça. Même que l'automobile, en général, est quand même assez sectaire. Tu sais, dis à quelqu'un qu'une Toyota fonctionne pas quand ça fait 15 ans que tu conduis des Toyota, puis tu as des menaces de mort sur Facebook. Là.
Ouais.
Les gens sont très sectaires, aiment beaucoup leur véhicule.
Quand tu débutes avec un Toyota, il y a de fortes chances, il y a plus de chances quand tu en rachètes un autre que tu achètes un autre type de véhicule. Parce que moi, j'ai eu plein de véhicules. Moi, j'aime ça m'acheter
d'autres aussi,
véhicules
vois-tu,
que
même,
j'ai jamais essayé. Là, j'ai un Wrangler. Là, le prochain véhicule, je ne sais pas ce que je vais m'acheter, mais je vais m'acheter certainement d'autres choses qu'un Wrangler. Mais il y a certaines personnes qui achètent des véhicules neufs qui se disent non, moi, je vais acheter Toyota, ce sera Toyota jusqu'à la fin de mes jours.
Oui, puis tu sais, en même temps, si l'expérience est bonne, pourquoi changer une recette gagnante? T'sais? Puis les constructeurs, puis là, on parle de Toyota, mais on pourrait parler d'Honda, on pourrait parler de Ford, on pourrait parler de n'importe qui. Là. Mais tu sais, Toyota a aussi une formule très. On conserve longtemps nos mêmes mécaniques qu'on réutilise à plein de sauces. Fait que souvent, tu changes de véhicule juste pour aller gagner quelque peu de technologie puis un design rafraîchi, mais tu le sais que tu te trompes pas vraiment au niveau de la mécanique. C'est de moins en moins vrai. On a des problèmes là, actuellement chez Toy quand même avec quelques motorisations qu'on a mis dans le Tundra, dans le Tacoma également, dans les gros véhicules. Ouais.
Okay.
On a fait un bon renouvellement des groupes motopropulseurs de ça peut-être 2 ans. Et là, on voit justement ce qui est entre guillemets normal pour le lancement de nouveaux groupes motopropulseurs. Mais quand tu t'appelles Toyota, on dirait que tu peux pas te permettre d'avoir des erreurs comme ça. Tu sais, quand Ford font des rappels sur des mécaniques, on est comme, ben oui, tu sais, c'est comme...
C'est un Ford.
Bah, tu sais, on commence à le savoir, Vaux, même affaire. Tu sais, il y a plein de constructeurs qui en font des rappels pour dire qu'on n'est pas trop inquiet, c'est comme normal. Mais quand Toyota font des rappels majeurs sur des groupes motopropulseurs qui ont vraiment des problèmes, tu sais, des problèmes sérieux, là, mm-hmm. là, on va remplacer les moteurs des Tundra qui ont été mis en circulation depuis 2022. Là. C'est pas un petit rappel, là, c'est un méga rappel à travers l'Amérique du Nord. Donc là, on se dit, ouais, là, des fois, ces constructeurs-là ont de la misère à sortir leur épingle du jeu, puis ça devient moins vrai que c'est parce que j'ai eu un Toyota avant que j'en aurais plus de problème après. Il faut rester toujours à l'affût. Puis si vous voulez un bon truc au niveau du magasinage, qu'est-ce qui s'est passé entre la génération actuelle de mon véhicule et celui que je convoite? Est-ce qu'on a fait une nouvelle plateforme? Est-ce qu'on est reparti sur un nouveau châssis, nouveau groupe motopropulseur? On a mis des nouvelles technologies à l'intérieur? Si c'est le cas, bien, ça va être dur de pouvoir vous dire « Oui, oui, ce véhicule-là est fiable. » C'est pour ça souvent que chez RPM, tu sais, j'ai eu ce commentaire-là dernièrement, puis je le comprends très bien. On va mettre des véhicules sous évaluation. Tu sais, entre deux. On met un genre de pastille jaune sur notre site web pour dire, ben, tu sais, ce produit-là, il est sous évaluation. Puis souvent, c'est pas parce que notre essai routier a mal été. C'est juste que ça vient d'arriver. C'est du nouveau stock. On va lui donner du temps de vivre un peu. Puis on va savoir après ça si effectivement c'est un produit qui s'est montré fiable. Tandis que quand on a des formules qu'on réutilise, ben, c'est plus facile de dire oui ou non, on le recommande. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier quand on magasine puis qu'on veut garder une certaine constance dans notre longévité de véhicule. Regardez si les générations ont vraiment changé, si les châssis ont changé, si les groupes motopropulseurs. Puis après ça, vous regarderez les écrans d'infodivertissement. Après ça, vous regarderez les bébelles qui viennent avec. Mais la base, là, c'est vraiment de savoir est-ce que le constructeur a décidé de faire un virage complet puis de mettre à jour sa plateforme. Si c'est le cas, ça vaut peut-être des fois la peine d'être un peu prudent avant de sauter sur ces nouveaux véhicules-là. Puis si vous êtes à l'aise avec ça, pourquoi pas? T'sais, des fois, on peut l'essayer et voir un peu qu'est-ce qui arrive. Généralement, quand on achète une nouvelle plateforme, c'est un véhicule qui est encore très bien garanti aussi. Donc, pas trop de problème.
Ça existe-tu encore des citrons où tu t'en sortiras jamais? Là? T'as ça et tu dis à toutes les six mois, je suis au garage.
Ça existe encore. Généralement, qu'est-ce qui est le fun et plate d'un citron, c'est qu'on s'en rend compte assez vite. Il existe des lois qui nous protègent par rapport aux citrons. Hein, l'Office de la protection du consommateur nous protège de ça également. Puis, qu'est-ce qui est, encore une fois, agréable de ça, c'est comme on achète neuf généralement. On le sait vite quand un véhicule a des problèmes parce qu'on est régulièrement au garage dans les premiers mois d'usage du véhicule. Donc, quand ça arrive, il existe des recours. Je ne vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas les chiffres devant moi puis je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais il y a vraiment une période où est-ce qu'on peut conduire un véhicule puis dire « OK, là, j'ai eu suffisamment de problèmes avec ce véhicule-là pour dire qu'il ne fonctionne pas dans son état adéquat. » C'est un peu ça la ligne, c'est de dire « Si vous me vendez un véhicule, il faut qu'il fonctionne comme il est censé fonctionner. » Si je suis toujours rendu au garage, que je ne peux pas remorquer avec parce que, justement, le système de remorquage ne fonctionne pas puis moi, je l'avais acheté pour remorquer, ben là, vous avez des recours qui existent quand même pour retourner un citron. Là. Ça existe.
OK. Pour les objets électroniques, moi, je sais que, exemple, pour laveuse, sécheuse frontale, il y a un technicien qui s'était pointé. J'avais appelé à l'endroit où j'avais acheté ma laveuse, sécheuse frontale. J'avais dit, elle est brisée. Qu'est-ce qu'elle a, votre laveuse, sécheuse? Je ne sais pas. J'ai besoin d'un technicien. Le gars est arrivé. Ça a pris 30 secondes. Il dit, je le sais, c'est quoi qu'elle a. Il revient dans son camion. Il rentre en dedans avec le tableau électronique. Je dis, mais comment ça, tu traînes ça avec toi? Il dit, ben, ces modèles-là, c'est tout le temps ça qu'il a. Puis ça dure tout le temps 2 ans. Puis là, il a commencé à me parler d'obsolescence programmée. Ça date déjà de plusieurs années. Là. Et j'avais commencé à regarder un peu sur Wikipédia, tu sais, obsolescence programmée. Puis là, je voyais qu'il y avait des recours en Europe sur l'obsolescence programmée. Puis il y avait des interdictions aussi à certains endroits. J'imagine que c'est arrivé aussi en Amérique depuis. Mais est-ce que pour ce qui est des véhicules, pour ce qui est des composantes électroniques, on a déjà détecté de l'obsolescence programmée?
Bien... C'est dur à dire, mais tu sais, est-ce qu'il y a des véhicules qui sont moins de bonne qualité pour le climat dans lequel on vit, des choses comme ça? Assurément.
Okay.
Est-ce qu'il y a de l'obsolescence programmée? Tu sais, je peux pas m'appuyer de stats, je peux pas m'appuyer
de... Il y a des chars qui sont rendus, des voitures et des camions qui sont rendus à 6, 7, 800 000 kilos puis qui sont encore top shape.
Il y en a qui roulent encore très bien, ouais.
Ça peut faire peur aux constructeurs, là.
Oui, ça peut faire peur aux constructeurs. Il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'il y a des constructeurs qui ne voient pas nécessairement la conception de leur véhicule sur du long terme, dans le sens qu'on va guinder ces véhicules-là de technologie qu'on aura plus ou moins testé sur du long terme. T'sais, on ne sait pas vraiment si ces aides à la conduite-là ou si les systèmes de freinage d'urgence sont faits pour durer longtemps. On ne le sait pas vraiment parce qu'on ne les a pas testés assez longtemps. Donc ça arrive clairement dans le marché actuellement. Est-ce que maintenant, il y a des constructeurs qui se disent « Il faut qu'après un certain nombre de temps, mon véhicule arrête de fonctionner? » Non. Est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent, eux, être un peu... Je vais dire cheapé, là, j'ai pas le terme plus francophone, là, je m'excuse pour les gens qui... Je fais attention habituellement, mais là, je l'ai pas pantoute. Mais,
programmé.
Ben, ou des pièces qui sont plus sensibles peut-être à avoir une certaine durée de vie, assurément. Tu sais, il y a des véhicules qui sont connus comme à 100 000 kilos, la courroie lâche. Toute la gang.
Parce qu'ils nous l'ont fait avec un cellulaire. Hein. À un moment donné, la capacité de la batterie était remise en cause. Ils ont fait une mise à jour. Puis là, la vitesse de ton cellulaire avait diminué. Ouais. Puis ça avait été considéré à l'époque comme de l'obsolescence programmée. C'est pour ça que je te pose la question. Ça arrive, vu qu'il y a beaucoup d'électronique maintenant dans les véhicules, est-ce que les constructeurs pourraient se permettre d'oser mettre de l'obsolescence programmée dans l'espoir que ton véhicule rendu à 850 000 kilos, là, un moment donné, tu vas venir en racheter un autre pareil?
C'est juste que c'est un couteau à double tranchant. C'est que si tu joues trop cette carte-là souvent, puis l'achat d'une voiture étant tellement dispendieuse, les constructeurs vivent sur réputation. Puis je prends un exemple concret. Mettons que tu prends un constructeur, regarde, il y en a un au Québec, là, il y a VinFast qui existe au Québec, entreprise vietnamienne qui vend des véhicules électriques. Ça n'a aucune réputation. On ne sait pas c'est quoi vraiment. Les gens qui en achètent actuellement prennent un risque clairement parce qu'on ne connaît pas le constructeur. On ne sait pas comment ça va aller à long terme, puis on ne sait pas comment ils vont faire pour continuer à rouler sur nos routes encore longtemps. T'sais. Puis ces questions-là qu'on n'est pas capable de répondre ralentissent fortement les ventes. Puis les réputations, c'est vraiment important dans le domaine automobile. Peut-être qu'un téléphone, si tu vis trop d'obsolescence programmée, tu te dis, ben, au pire, je vais aller avec l'autre marque à côté. Puis qu'est-ce qui est triste, c'est que souvent, ils sont construits dans la même usine par la même gang. Ça, c'est un peu un autre problème, là. Mais dans l'automobile, il y a des réputations autour de ça qui coûtent une fortune aux constructeurs à développer. Puis ça pourrait être très nocif pour eux des pertes. Donc, je me répète, je pense pas qu'il y a des véhicules, mettons, qui ont une durée de vie minimal, parce que des fois, tu vois, mettons, des gens qui s'occupent extrêmement bien de... Tu sais, on a vu passer dernièrement un Hyundai Elantra qui a eu 1 million de kilomètres, tu sais. Puis c'était un événement, là, Hyundai avait célébré ça, puis c'était une grosse affaire, tu sais. Mais t'es capable de le faire, dans le fond, avec un Hyundai Elantra qui, bien du monde, te disait « Ah non, ça, c'est pas fait pour tuer, là, c'est des voitures qui vont mourir rapidement. » Puis effectivement, la plupart ont probablement mouru rapidement dans ces années-là, tu sais. Mais il y en a qui sont capables de le faire quand même, là, 1 million de kilomètres avec leur véhicule. Donc, je pense qu'il y a une question d'entretien, mais il y a une question de pièces. Il y a des véhicules qui ont des pièces qui ont été moins coûteuses installées dans les autos. Ça paraît parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes au même moment. T'sais, des fois, c'est très drôle. Si tu as un problème sur ton Jeep, tu peux regarder sur Internet pompe à chaleur qui lâche dans l'auto ou pompe à eau, whatever. Puis tu regardes ton année, puis ça se peut que tu vois un forum qui te dit « Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé, moi aussi, à tel nombre de kilométrages. » Puis là, tu te dis « Bon, là, tout le monde a le même problème autour du même nombre de kilométrages. Ouais. » Clairement, c'est parce que la pièce qu'on avait installée était bonne pour 100 000 kilomètres. Fait que là, après 100 000 kilos, ben, je me tourne où? Ben, sur mon concessionnaire. Fait que là, on fait de l'argent parce qu'on fait de l'entretien sur les véhicules. Fait qu'il y a peut-être de ça qu'on peut voir dans l'automobile, je pense, parce que je crois pas que c'est tous des hasards.
Non, c'est ça. Mais même, j'étais au garage la semaine passée pour faire quelques réparations. Puis le garagiste a dit, tu veux que je fasse le tour un peu? Il dit, c'était à quelle année? Là, je dis, c'était en 2014. Ah, parfait, je vais checker telle affaire.
C'est ça.
Ils sont susceptibles d'avoir des petits manquements à certains endroits, ces modèles-là. Puis, tu sais, ça, c'est rare que ça m'arrive. Le gars me dit, d'habitude, faut le remplacer, puis le tien, il est correct.
Ah.
Je dis, oh, merci, je vais pouvoir partir à Cancun. Juste pour revenir sur le Lincoln Navigator 2025, c'est-tu un modèle que toi, tu conseillerais pour les gens qui trippent sur ce modèle-là?
Mais tu vois-tu, actuellement, qu'est-ce qui est le fun du Lincoln Navigator, c'est qu'on n'a pas touché vraiment aux mécaniques. Fait qu'on garde les mêmes mécaniques. Oui, c'est une nouvelle génération, mais on a gardé essentiellement les mêmes mécaniques depuis le départ du véhicule. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un seul moteur, 440 chevaux, 510 livres de couple. C'est un V6 3.5 litres double turbo qu'il y a là-dedans. Ce que j'aime du Lincoln Navigator, c'est que c'est un véhicule qui peut remorquer. Ça, dans la catégorie, c'est pas tout le monde qui peut le faire nécessairement, dans le sens que, tu sais, on peut remorquer jusqu'à 8700 livres quand même avec ce camion-là, ce qui est très gros avec l'ensemble de remorquage. Il faut prendre l'option de l'ensemble de remorquage, mais c'est quand même très gros pour la catégorie. Moi, c'est un véhicule, puis tu sais, RPM aussi, c'est un véhicule qu'on recommande dans l'optique où c'est une motorisation qu'on connaît depuis vraiment longtemps. On a par contre installé à l'intérieur maintenant des modes différents, comme un mode spa, là, qu'on appelle...
Un mode spa!
Qu'on appelle le Rejuvente, je ne sais pas trop comment il le prononce, mais c'est un mode où est-ce que tu peux actionner un système qui va faire pencher ton banc. Ton banc, il est massant sur les deux premières rangées. Fait que les gens en arrière aussi sont massés. Donc, s'ils sont massants, ils sont ventilés et sont climatisés, sont aussi chauffants, là, des bancs extrêmement confortables. Et là, tu t'assois dedans... Le véhicule va changer l'ambiance à bord, changer l'éclairage. Il y a un écran de 48 pouces en avant, un écran incurvé de 48 pouces avec un système de son Revel, de marque Revel, de 28 haut-parleurs. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des images de de chute d'eau, de soleil, de coucher de soleil, des choses comme ça. On couche le banc, on actionne les bancs massants et il y a des odeurs dans l'habitacle qui sont dégagées parce qu'il y a comme des petites bouteilles de parfum que tu peux ajouter à bord. Donc là, ça va sentir la nature, la forêt. Et c'est une méditation de 5 à 10 minutes que tu peux faire à l'arrêt avec ton véhicule.
Mais là, Samuel Tremblay-Michaud, là, j'essaie le Lincoln Navigator 2025 puis après ça, je retourne dans mon Wrangler, je fais une dépression.
Ben, c'est sûr que, tu sais, il y en a un que tu as besoin d'un Kiro, ton Wrangler, et il y en a un que tu n'auras pas besoin de Kiro, clairement, ton navigateur.
C'est complètement fou à quel point ils sont rendus aux petits soins pour le conducteur puis les autres qui sont à l'intérieur de l'habitacle.
Mais je t'en avais parlé. Hein?
Pourquoi?
C'est pourquoi ils le font. Moi, j'ai eu j'étais comme sur la même batch parce que souvent, les programmes, pour savoir, c'est des vagues de journalistes qui passent. Fait qu'on fait souvent le même programme sur 2 semaines. Moi, je suis là 3 jours, puis après ça, c'est la vague des journalistes allemands qui vont arriver avec les journalistes suisses là, qui vont arriver, puis vont voir le même programme que moi, mais moi, je suis plus là. T'sais, on fait des vagues comme ça. Puis là, j'étais sur la vague avec les journalistes chinois. Puis j'ai eu la chance de discuter avec eux là, une bonne soirée de temps. Puis ça m'a surpris d'ailleurs, on était très honnêtes. On dirait que j'avais comme l'appréhension qu'on n'allait pas nécessairement me dire toute la vérité sur comment c'est réellement en Chine. Mais on m'expliquait que ce mode-là, pour eux, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a tellement un train de vie là-bas qui est effréné. Les gens travaillent tellement, tu sais, comme je parlais avec une des journalistes qui me dit que ça fait un mois et demi qu'elle n'est pas retournée chez elle, qu'elle n'a pas vu ses enfants, là. Parce qu'elle travaille 7 jours semaine, là, elle n'a jamais eu de fin de semaine, là, comme elle a travaillé 7 jours semaine, 24 heures sur 24, puis elle dit, ben, tu sais, elle est représentante chez Lincoln, là, c'est la PR de Lincoln, mais en Chine, puis elle disait, ben, tu sais, moi, le mode spa, ben, je l'utilise dans mes autos. Parce que ce mode-là existait déjà dans le Nautilus, qui est un plus petit VUS chez Lincoln. Puis elle dit, ben, moi, je l'utilise parce que c'est mon 10 minutes dans la journée où je suis capable de ne pas faire quelque chose qui est du travail. Fait que ça me fait réellement du bien. Tu sais, comme pour elle, c'est une manière de se reposer qu'elle n'a pas accès nécessairement à avoir dans son quotidien.
On va se le dire, il y a des gens qui travaillent, tu sais, que leur camion ou leur voiture, c'est leur bureau.
Ben, à 100 %. Est-ce qu'après ça, je vous dirais courir vite chez Lincoln pour acheter ce mode-là? Je crois pas que dans notre utilisation, à nous ici, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui va être extrêmement utilisé. C'est peut-être quelque chose qu'on va braguer. T'sais, au speed de Noël, hey, mon Lincoln, j'ai un mode spa, 48 pouces d'écran, mais je pense pas nécessairement que c'est un mode qui va être extrêmement populaire ici. Ça vaut la peine d'être vu si vous avez la chance de le voir. Il y a des vidéos sur RPM aussi que j'ai mis.
Il y a des bonbonnes qui sont mis à l'intérieur du véhicule qui servent à libérer une certaine odeur.
Oui, un parfum dans l'habitacle. Puis selon le mode de massage que vous allez choisir, l'odeur va changer aussi.
Ouais.
Fait que tu as des odeurs comme clair de lune parsemé. Ouais,
parce que j'ai fait un voyage avec un de mes chums, Simon, que tu connais, que tu as déjà entendu parler sur nos ondes. Puis il y a un beau modèle de véhicule, un véhicule de luxe. Puis oui, il y avait le massage à l'intérieur. Ça, j'avais fait Québec-Montréal avec. Puis quand il prenait des courbes, le coussin du...
Lombaire.
Le coussin lombaire, exemple, s'il tournait à gauche, ben, le coussin lombaire droit gonflait.
Oui, pour te pousser puis te garder droit.
Pour te garder droit. Puis là, je me suis dit, oh, tabarouette, que la technologie est rendue là. T'sais. C'est sûr que c'est des véhicules qui sont de luxe, là, mais n'en demeure pas moins que tu te dis, ça va être quoi la prochaine étape? T'sais, what's next? Là, tu me dis que c'est un spa. Là. Dans ton véhicule, c'est un spa. Après ça, ça va être quoi?
Ben là, c'est ça. Le Lincoln vient de franchir l'étape de l'odeur. Fait qu'on vient de transformer ça. Je sais pas, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on va atteindre une certaine limite aussi sur qu'est-ce qu'un véhicule peut faire. Puis, tu sais, comme je vous disais, ce mode-là, pour moi, oui, en Chine, il est peut-être justifiable, puis je mets des guillemets ici, là, mais je connais pas assez bien le marché chinois pour comprendre à quel point les gens vont réellement l'utiliser. Mais chose certaine, c'est que ça fait beaucoup jaser.
Ouais. Qu'est-ce que le ID Buzz?
Le ID Buzz, c'est la petite van électrique chez Volkswagen. Tu as sûrement vu les photos. Là. C'est le successeur du Westphalia.
Je l'ai pas vu, non.
C'est le successeur du Westphalia. Ça fait 5 ans que Volkswagen nous en parle. Ça fait 5 ans qu'on fait des coups marketing, qu'on en parle à gauche puis à droite. On a fait un événement spécial en Californie.
Ah oui, oui, je l'ai vu.
Ouais. C'est sûr, tu as vu ça. Là. Ça fait un bout qui circule sur le web. C'est un véhicule qu'on a mis aussi en Californie, justement, avec les anciens Westphalia, les anciennes générations des Westphalia pour montrer son identité très campeur, très green, très cool. On a présenté aujourd'hui, c'est tout chaud, tout frais, là, c'est ce matin que ça a sorti, les prix de la version canadienne. Il faut savoir qu'en Europe, il y en a déjà un qui roule actuellement, mais il est plus petit, donc il est moins long que lui qu'on a en Amérique du Nord.
Le ID Buzz, il est électro-cool?
Il est électro-cool.
Cool.
Ouais. Parce que c'est électrique.
OK. Mais là, c'était Westphalia, c'est pour faire de longues distances?
Ouais, puis là, c'est pas le cas.
Ah non?
Ah non. Puis c'est un peu ça qu'on va jaser, parce que là, aujourd'hui, on a eu les détails sur les prix, l'autonomie, puis de voir un peu plus à quoi ça allait ressembler.
Ouais.
Tu sais, il faut savoir qu'au Canada, on va avoir en premier lieu une édition qui s'appelle la First Edition. Cette édition-là vient uniquement en version passager. Donc, on ne peut pas l'avoir en version camping car. On a l'option de l'avoir soit en 6 places avec des sièges capitaine ou en 7 places avec une banquette dans le centre. C'est un véhicule aussi qui a vraiment une vocation familiale, là, principalement ici, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas encore un véhicule VR. Ce n'est vraiment, c'est pas un véhicule récréatif, c'est un véhicule familial. Et là, Volkswagen a annoncé les prix. On a deux options. Tu as l'option 1 qui est propulsion, donc c'est l'option avec le rouage en arrière qui te pousse, ou tu as l'option intégrale qui est 4 roues motrices.
Ce qu'on appelait dans les années 80 la traction arrière.
La traction arrière. T'as la traction arrière.
La traction arrière qui, en fait, te propulsait.
C'est ça. Puis tu as le système 4 roues motrices. Fait que là, tu as l'idée des deux. On commence les prix à 79 995 $ incluant les frais de transport et préparation.
Mais non.
Je capotais. Puis tu sais, Vogue nous a envoyé hier soir, en soirée tard, là, comme ma douche était prise, pour vous donner l'idée, là, les informations sur le véhicule, puis le lancement, mais le dévoilement, là, était ce matin à 9h. Fait que j'ai travaillé hier soir de nuit pour faire l'article, parce que je voulais que le RPM, on aille ça, parce que c'est important comme nouvelle, puis les gens l'attendent depuis 5 ans. Puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles, puis j'ai parlé avec un nombre majeur de personnes qui m'ont dit « J'ai de l'intérêt pour ce produit-là parce que c'est une vanne électrique. T'sais, j'ai envie de faire une transition électrique, mais j'ai besoin de place pour transporter mes enfants. Puis, t'sais, je veux une vanne. Je veux pas nécessairement un VUS. » Puis à 79 995 $, c'est les familles très fortunées qui auront la chance d'avoir un ID Buzz. Et l'autonomie, on parle de 377 km dans la version propulsion.
Dans le meilleur des cas.
Puis l'autre option avec l'intégrale, c'est 373 km. Hey, c'est pas gros là, pour faire des voyages en famille. T'amènes ton bagage, t'amènes tes enfants en arrière, t'amènes ton stock dedans. Tu vas avoir peut-être 300 kilos ouais. dans les bonnes conditions extérieures.
T'sais. Mais mettons l'hiver ici, là, tu décides de faire un Québec-Montréal. On parle de moins 15, moins 20.
Ouais, es-tu capable de 30? Moi, je pense que tu es capable de 30. Okay. Je te dis pas que tu vas avoir du lousse en arrivant. Mais je pense que tu es capable de 30. Puis ça dépend encore une fois, t'es-tu 7 dans l'auto? Si c'est 7 personnes avec du bagage, peut-être qu'il y a un arrêt obligatoire. Là, parce qu'avec le chauffage, effectivement, il va falloir climatiser ce véhicule-là pour qu'il roule. Donc, ça se peut effectivement qu'il y ait un arrêt obligatoire pour le recharger. Mais dans tous les cas, peu importe comment on joue avec les chiffres, ça n'a pas d'allure. Le prix est beaucoup trop cher.
T'as pas l'impression que ça va être un grand succès.
À vrai dire, c'est un désastre. Parce que ça fait 5 ans qu'on en parle. Ça fait 5 ans que le monde sont hypés, que les gens ont hâte d'avoir le prix. Puis juste aujourd'hui, j'ai sorti du stock sur RPM la liste de commentaires de gens qui me disent, il y a un monsieur qui m'a fait très rire. Il dit, il y en a une gang qui vont débosser. ID Buzz, en tout cas, je l'ai trouvé drôle. Puis, tu sais,
c'est la première fois qu'on l'entendait.
Non, mais je l'ai trouvé bonne. Je l'ai trouvé sympathique. Puis tu sais, les gens dans les commentaires, c'est assez unanime. J'ai vu aucun commentaire me dire « Ah non, ça a de l'allure. » Tu sais, c'est vraiment impressionnant comment le véhicule est cher, à mon humble avis.
Ce type de véhicule-là, avec l'expérience que tu as dans le merveilleux monde de l'automobile, tu aurais mis ça à quel prix?
Ben, moi, mettons, là, pour dire qu'on a eu un succès, là, une version... Tu sais, le monde, après ça, tu sais, j'ai... Je me suis ostiné sur ma page personnelle. Il y a un représentant Volkswagen que je connais bien qui a commenté mon partage parce que j'ai partagé l'article, puis j'ai mis des bonhommes avec qui crachent du cash, là, puis j'ai dit c'est beaucoup trop cher. T'sais. Puis là, le représentant vient en commentaire, puis il essaie de me parler pour me faire expliquer que, ouais, mais tu sais, avec le niveau d'équipement, si tu compares ça à d'autres véhicules ou quoi que ce soit, puis là, je me suis amusé parce que je me suis dit, bon, mais tant qu'à être là-dedans, on va se faire du fun ensemble. Puis, tu sais, j'ai sorti la Toyota Sienna hybride. Pas électrique à 100%, mais hybride. On parle d'une cote de consommation hallucinante. Là. C'est un 6 litres au 100 de consommation pour une grosse vanne qui va avoir une fiabilité éprouvée, qui va avoir une valeur de revente à se péter la tête des murs et qui va aussi être capable de faire la job pour les familles. Incluant les frais de transport et préparation, le modèle de base est à 47 000. C'est 32 094 $ de différence entre les deux. Et puis là, j'étais allé plus loin dans ma réflexion. J'ai dit, écoute, j'allais voir sur Ressources naturelles Canada. Eux, ils projettent une consommation annuelle d'à peu près 1914 $ d'essence que tu mets dans l'auto pour une année complète. C'est 20 000 km qu'on met dans le calcul. Fait que là, j'ai fait la mesure du calcul. Ça prendrait 17 ans pour rouler un Sienna puis arriver à reprendre le gap financier entre le prix du ID Buzz régulier puis le prix de la Sienna de base. Fait que, tu sais, c'est 32 000 $ à compenser, là, ça n'a aucun bon sens.
Et le rep de Volkswagen, as-tu décidé de refaire son CV aujourd'hui quand
non.
tu lui as dit ça?
Non, ben là, après ça, il a commencé à me dire, ouais, mais là, on ne compare pas le même niveau d'équipement. Fait que là, il m'a dit, ben là, si tu prends, mettons, la Sienna Limited, la plus équipée, Ben là, écoute, on a juste finalement 9 000 $ de différence si on met les subventions dedans. Puis je suis comme, non, mais le spa-là, ça marche pas, parce que la sienneute est 4 roues motrices. Donc là, il faudrait prendre l'intégrale. Mais lui, il est à 85 495 $ chez Volkswagen. Donc, il me reste encore un gap de 19 000 entre les deux.
Ouais.
Donc, 10 ans encore. Puis en 10 ans, les deux sont rentrés au dépotoir, peut-être. Tu sais, je pense, ça n'a plus d'allure. Le prix pour les familles, ça n'a pas de bon sens. Faut pas normaliser ça. Faut pas dire 80 000 $, c'est justifiable. Ça ne l'est pas. Et l'assurance de ce véhicule-là va être ahurissante. Ça va coûter une fortune en assurance. Il va y avoir les entretiens à faire quand même sur ce véhicule au niveau des pneus. C'est un véhicule qui va se mettre très pesant, d'une batterie de 91 kWh. Donc, c'est un véhicule qui va manger ses pneus comme les véhicules électriques sont réputés pour le faire. Donc, calculez l'assurance qui va vous coûter clairement plus cher qu'une Sienna, les pneus que vous allez changer plus fréquemment et une différence de prix de 32 000 entre une Sienna de base et un ID. Buzz de base, puis ça fait aucun sens. Donc, pour les familles, moi, je pense qu'un prix autour de 50, ça aurait eu de l'allure. J'aurais pu comprendre à 55 000 même que tu me dises, « Ouais, mais là, t'as pas l'essence à mettre. Ah, ben t'as peu, là, OK, on commence à être dans un ratio point intéressant. Si j'enlève l'essence, oui, même si mes assurances me coûtent plus cher, à 55 000, j'ai une expérience électrique. Mais là, il faut se contenter de 377 km. Puis il faut aussi se contenter que le véhicule risque d'être moins équipé également pour arriver à ces prix-là. Mais dans tous les cas, à 80 000 $, je ne sais pas ce que Volkswagen a fait avec ça. On s'en doutait là, que les prix allaient être chers. Ça fait longtemps qu'on le savait là, que ça allait être cher. Là. Mais même moi, je ne pensais pas à ce point-là. 80 000, c'est trop cher.
Est-ce qu'ils peuvent, en bout de route, une fois que, je sais pas moi, les mois se seront entamés puis qu'ils voient leur vente qu'ils pensaient avoir... s'estomper. Est-ce qu'ils peuvent descendre le prix?
Ben,
liquider?
Ce que je pense, c'est que là, on a sorti la First Edition qui arrive extrêmement équipée, là, qui est comme ben, ventilée, puis tous les garaments, là, avec les systèmes de son Harman Kardon et puis toutes les patentes. Là. Toutes des affaires qui, entre toi et moi, quand tu traînes des enfants dans l'arrière, tu t'en balances un peu. Là. Ce que tu veux, c'est que c'est-tu des matériaux facilement lavables? C'est-tu fiable? Je vois-tu toujours être rendu au garage avec ça ou quoi que ce soit? T'sais? C'est plus le genre de questions que les familles se posent à la base. Si tu enlèves tous ces équipements-là, je pense que Volkswagen vont probablement présenter une version plus abordable. Okay. Mais à quel point?
Puis la ID. Buzz, on voulait copier un peu l'ancien Westphalia. On a-tu été jouer avec les couleurs?
Il y a des tonalités différentes. Le produit en tant que tel est super intéressant dans le sens que moi, je le trouve cool. Puis tu sais, je te cacherai pas, quand au début de ça, 5 ans, on l'a présenté, on était dans la COVID, puis je n'avais même imprimé un, puis je l'avais mis sur mon frigidaire, puis là, j'attendais mon premier kit, je me disais, hey, ça, j'aimerais ça. Ça, avec ma blonde, là, avoir un petit ID. Buzz de même, ça me serait fun, hein, tu sais, avec notre bébé, on préfère du camping, on préfère des affaires. Tu sais, je me projetais moi-même à me dire, crème, ça arrête de l'allure. Puis c'est pas une question de manque de produits. L'intérieur a l'air beau également. Je l'ai vu en vrai, une coupole de foil, ils l'ont mis dans les salons de l'auto, puis tout. Puis tu sais, tu vois que c'est un produit qui a une belle fenestration, une belle ouverture aussi. Le design est agréable à voir. Là, tu sais, pour une petite fourgonnette, c'est sympathique à mort comme design. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants, mais le problème, c'est la facture qui vient avec. Puis ça, malheureusement. Je suis pas capable de passer au-dessus. Je suis pas capable de passer à travers ça. Puis, m'avoir de la misère, sincèrement, à dire à du monde comme toi puis moi que ça a de l'allure. Tu sais, je comprends, il y a peut-être des gens qui écoutent qui, eux, ont les moyens. Tant mieux pour vous. Tu sais, bonne nouvelle, mais vous faites partie d'une minorité. Puis, selon moi, les gens qui ont les moyens, ils ont aussi des trains de vie qui sont assez excessifs. Donc, peut-être que le 377 km d'autonomie ne sera pas suffisant non plus. Fait que, j'ai vraiment de la misère. Là, présentement, je pense que pour les familles dans l'électrique, il y a le EV9 chez Kia qui rapporte que l'été-prix est meilleur qu'un ID. Buzz haut la main, qui offre 7 places, qui offre plus d'autonomie également. Fait que je pense que c'est même pas une question actuellement.
Samuel Tremblay-Michaud, on en a régulièrement parlé, toi et moi, le prix des assurances pour ce qui est du type de véhicule électrique, exemple. Ouais. Les compagnies doivent commencer à prendre conscience de ça, les constructeurs, en se disant « Oh, tabarouette, on a intérêt à faire des véhicules qui, advenant le cas où il y a une collision, que ce soit pas toujours des pertes totales. » Est-ce que tu as constaté que les constructeurs commençaient à prendre conscience que là... les assurances qui augmentent constamment, les gens vont peut-être être moins portés à aller vers ce type de véhicule-là?
Pas vraiment, non.
Non?
Non, puis tu sais, quand on regarde aussi la conception, puis là, si on parle de véhicules électriques, parce que c'est sûr que les véhicules électriques sont plus facilement pertes totales parce que la technologie qui est à bord, c'est exemple qu'on brise le plancher de batterie d'un véhicule électrique, c'est fini.
C'est fini.
Puis en même temps, il n'y a pas vraiment de solution. En tout cas, il n'y a pas une compagnie qui m'a présenté quelque chose que je ferais comme « Ah, OK, grâce à ça, la batterie pourrait être sauvée. Tu » sais. Jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment changé. Donc non, pas beaucoup de nouvelles par rapport à ça non plus. Tu sais, les constructeurs, ils ont des modèles qui se faisaient voler beaucoup dernièrement. On voit une diminution. D'ailleurs, là, les vols de véhicules au Québec, ça ralentit, puis c'est une bonne nouvelle. Là, tu sais. Mais même pendant le pic des vols de véhicules, t'as-tu vu Toyota ou Honda, tu sais, avec les CR-V et les RAV4 qui étaient dans les plus volés, faire quoi que ce soit pour les rendre plus sécuritaires ou moins faciles à voler? Ils n'ont rien fait, là, tu sais. Fait que oui, les assurances sont montées, mais les compagnies, eux autres, ça leur fait pas vraiment. Pas non,
pourtant,
pas vraiment.
Ce serait simple. Mettons qu'on prend les vols de véhicules, là, je veux dire, même ton cellulaire est équipé d'un antivol si tu y vas avec la reconnaissance faciale. Donc, ce serait facile de mettre différents conducteurs pour ton véhicule. Puis si tu n'as pas cette face-là, ben, ton véhicule ne partira jamais.
Oui, oui, mais en même temps, c'est toute une question d'application sur une échelle plus large.
Oui, mais on l'a sur nos cellulaires.
Je le sais. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de te dire que ça ne serait pas impossible, mais les constructeurs, pour l'instant, ils n'ont aucune raison valable d'y aller vers là. T'sais.
Fait que c'est payant pour eux de se faire voler un véhicule.
Mais oui, ils vont en vendre d'autres, puis ils vont en produire plus. Là, au bout de la ligne, il n'y a pas vraiment personne qui. Sont perdants quasiment de l'améliorer, le système de sécurité, là, au bout de la ligne. Fait que. Non, pour l'instant, l'industrie ne va pas vers là. Puis, tu sais, après ça, on peut se poser des questions sur à quel point nos assurances sont rendues chères aussi. Puis, c'est-tu tout de la faute des constructeurs? Je ne le sais pas non plus. Là. Mm. Comme je connais moins la business des assureurs, là, mais clairement, il doit y avoir des bonnes marges de manœuvre actuellement là, chez les assureurs. Là,
ben, leur objectif, c'est de faire de l'argent à la fin de l'année.
Ben, c'est ça.
Si on trouve réclamation, ça va augmenter.
Selon moi, ils réalisent cet exploit-là chaque année. Là.
Ah oui?
Ah oui. Ouais. Donc, voilà.
Là, je regarde les 70 000 réclamations pour ce qui est des dégâts d'eau. Je suis content de ne pas être une compagnie en assurance.
Ben, même temps, c'est à ça que sert, là. Je vois.
Ben, ouais.
Puis j'espère que les gens sont bien traités, honnêtement, là, parce qu'au prix qu'on coûte pour ces assurances-là, j'espère que les gens ont des bons services avec leur ouais. compagnie d'assurance.
Mais honnêtement, je pensais que l'industrie allait se prendre en main ou que les gouvernements allaient obliger les constructeurs à se prendre en main. Tu sais, le gouvernement essaye de mettre de la pression sur les constructeurs au Québec, entre autres, sur l'objectif 2035. Tu sais, il n'y a plus un véhicule à essence qui va se vendre sur le territoire, ce que je ne crois pas. Ils n'auront pas le choix. Tu sais, je parlais avec...
On en parlait ensemble depuis un bout quand même.
Je parlais avec un concessionnaire auto. Juste le rachat du véhicule à essence serait impossible pour les concessionnaires.
Ah ouais.
Donc là, imagine-toi, là, t'as le concessionnaire qui peut pas prendre ton véhicule à essence dans l'espoir de t'en vendre un électrique. Je veux dire, ces véhicules-là vont aller où? On va faire quoi avec ces véhicules-là?
Il y a sûrement un marché qui va se développer fort dans l'usager. J'ai l'impression que l'usager va se développer vraiment.
T'sais, ou le gouvernement va reculer.
Ou le gouvernement va reculer. Oui, ça, c'est probablement que ça va arriver, effectivement. Je ne joue pas de boule de cristal, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai parlé avec la directrice, la présidente de Lincoln. J'ai eu un souper en tête-à-tête avec elle.
Ça se glisse bien dans une conversation, ça.
Quand même, hein?
Moi, j'ai parlé avec elle.
Non, mais je voulais pas faire ça, en plus. Je voulais tellement pas faire ça, mais... C'était pas ça. Je voulais juste donner du poids au propos parce que c'est pas moi qui l'ai dit.
Elle
mais...
a insisté. Elle a insisté pour manger avec toi.
Non, non, pas personnellement. Mais à vrai dire, c'est le fun parce que justement, on a comme les tables de journalistes. Puis elle est venue s'asseoir avec les journalistes canadiens. Puis je suis en face d'elle. Okay. Fait qu'on a pu jaser toute la soirée. Puis c'était super plaisant. Puis justement, j'ai posé littéralement la question. Est-ce que tu crois qu'en 2035, peu importe quel état, là, je parlais pas nécessairement du Québec, là, je parlais des autres pays également qui avaient pris cette mesure-là, crois-tu qu'on va y arriver? Puis pour elle, c'était impossible. Là. Comme c'est évident que c'est impossible. Il n'y a même pas eu d'hésitation dans sa réponse. Là. Fait que, tu sais, quand tu entends le marché, le milieu parler comme ça aussi, tu te dis, bon, clairement, on arrive à quelque chose. Puis là, je pense qu'on vit une espèce de sandwich. Là. On est comme pris entre un objectif qui pour certains, n'est pas assez ambitieux, pour d'autres, l'est trop. Puis de l'autre côté, on a ben, les constructeurs qui développent leur plateforme puis qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas vraiment à quelque chose. Puis là, on est entre les deux. Ben, on a tous les gens qui consomment puis qui essaient de faire leur possible pour avoir un véhicule qui va faire leur affaire.
Est-ce que les constructeurs ont ralenti leur cadence au niveau de la production des véhicules électriques en se disant, bon, on s'en allait vers là. Là, on s'aperçoit que la demande n'est pas aussi forte. Fait qu'on va recommencer à faire, exemple, des hybrides.
Hybrides, c'est clairement ça. On entend beaucoup parler. L'hybride, on s'en va vraiment dans une transition plus douce. Clairement, on est parti avec une intention féroce de faire une transition électrique dans le marché aussi. Là. On a mis beaucoup d'énergie là-dessus. Il y avait la folie aussi au début du lancement des véhicules électriques. Il faut savoir que t'sais, il y a plusieurs niveaux de consommateurs. T'sais, moi, j'ai un background en stratégie marketing. Puis, tu as les early adapters, les gens qui vont aller chercher la technologie quand elle sort. Moi, je veux le nouveau gadget, je veux la nouvelle affaire. Quand la compagnie de téléphone que j'aime sort le nouveau téléphone...
Ça, c'est ceux qui ne doivent pas être responsables du budget familial.
Non. Ouais. Ou ceux qui ont les moyens de gérer le budget familial. Ouais, c'est peut-être ça, tu sais. Puis, mais ces gens-là, eux autres, ben, eux, ont consommé fort aussi, je pense, l'automobile. électrique. On a sauté fort sur cette nouveauté-là. Puis là, on commence clairement à voir qu'on est rendu dans une nouvelle tranche de consommateurs qui, là, sont peut-être un petit peu plus axés sur prendre le temps. T'sais, prendre le temps de magasiner, voir mes besoins, savoir si la technologie est fiable, ont plus de questions, remettre en doute un peu plus cette technologie-là. Et là, ben, tu vois que ça ralentit. Puis t'sais, ça ralentissait déjà aux États-Unis. En Chine, ça explose actuellement. Là. Même qu'en juillet, ils ont vendu un véhicule sur deux électriques. Puis, Huawei, là, comme c'est une autre game. Les autres ont pris de l'avance majeure sur l'ensemble du monde. Jim Farley, le président de Ford, était aussi au même événement. Puis il parlait, puis il disait que t'sais, la Chine, c'est eux qui contrôlent l'automobile à cette heure. Comme ils ont repris un ballon très fort dans le poids. Le marché ne va pas si bien. Par contre, là, les entreprises ont de la misère à avoir des bonnes marges de manœuvre sur leur vente de véhicules, même à l'interne. Dans le marché chinois, ça ne va pas tant bien, mais ils en vendent quand même beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup également.
Mais ils recherchent aussi des territoires. Là. L'Afrique est hyper intéressante.
C'est pour ça que là, on voit Chinois. Beaucoup de nouvelles là-dessus. C'est que la Chine commence à avoir des problèmes au niveau économique avec la vente de véhicules.
Ouais.
S'ils ne sont pas capables d'exporter à l'extérieur de la Chine leurs produits, ça ne sera pas viable à la cadence.
D'aller chercher le minerai aussi pour les batteries?
Le minerai, mais même la cadence de production, juste la cadence. Le problème, c'est que la cadence est tellement effrénée actuellement. On veut tellement être vite dans l'électrification que si on n'est pas capable de sortir de la chaîne ces produits-là, on va planter. L'économie ne tiendra pas ça à bout de bras, on ne sera pas capable. Puis ça, il y a beaucoup c'est pas moi qui dis ça, là, c'est plusieurs analystes qui projettent ça comme situation. Donc là, on voit que l'électrique, il y a vraiment un frein qui a été mis, effectivement. Nous, ici, on vit quand même dans notre bulle, là, au Québec, là, avec notre système hydroélectrique qui est très fonctionnel, avec même nos bornes de recharge qui sont accessibles et partout. Pour voyager un peu, là, honnêtement, là, on est bien. Au niveau de l'électrique, ici, c'est plaisant. Là. J'ai eu souvent des véhicules électriques en essai. C'est extrêmement agréable. Le réseau est accessible. C'est des voitures qui ne coûtent presque rien à rouler.
Ouais.
Moi, j'ai la chance de ne pas les payer. Fait, c'est sûr, c'est encore moins cher. Mais tu sais, c'est... Le réseau est là, on a une belle infrastructure, puis je pense pas qu'il va falloir régresser. Je pense pas non plus, puis malheureusement, pour ceux qui pensent que je vais dire ça, on ne retournera pas en arrière. Là. Pensez pas que du jour au lendemain, les compagnies vont faire « Ah, mais c'est fini, maintenant, on va produire des tout petites voitures manuelles à 5 000$, puis le monde va chauffer des chars à gaz. » Oubliez ça. Là,
les Américains sont 330, 340 millions, là, à peu près. Eux autres, le tout électrique, ils ne sont pas encore là.
Mais ça dépend. Tu vois, je suis en Californie, tu en vois plus. Ouais. J'ai vu des Hyundai Ioniq 5, j'ai vu des modèles que nous, ici, on a, que je ne voyais pas souvent dans les autres États. Mais c'est très partagé actuellement aux États-Unis. C'est ça le problème. Y a encore un grand manque d'acceptabilité sociale au niveau du véhicule électrique. C'est pour ça que l'hybride devient une solution. Puis c'est pour ça que des constructeurs majeurs comme GM ont dit, v'là 2 ans, c'est fini, nous. On va même pas dans l'hybride, on fait que d'électrique. Mais que là, vois-tu, l'année passée, on a annoncé ouvertement que non, on va refaire une gamme complète de véhicules électriques. Puis ça s'en vient, on va commencer à les avoir. L'année prochaine, là, je vais vous parler de ça toute l'année, c'est sûr et certain. GM vont nous amener leur groupe motopropulseur hybride qu'on va voir partout. Mais tu sais, 2024, 2035, c'est encore dans 11 ans, théoriquement. On a tellement bougé vite dans les dernières années qu'en 11 ans, c'est pas impossible qu'il y ait encore un gros développement qui se fasse autour de ça et qu'on y arrive. Est-ce que le marché y croit? Non. Est-ce que moi, personnellement, j'y crois depuis le départ? Je trouve ça extrêmement ambitieux. Est-ce que, par contre, il faut se dire, OK, on projette ça dans une autre vingtaine d'années? Je pense pas non plus.
Parce qu'actuellement, puis il faut que je fasse une pause, là. Écoute, on va reprendre cette discussion-là après la pause. Je vous rappelle qu'on est avec le chroniqueur automobile Samuel Tremblay-Michaud. Le gars d'APM, on peut dire maintenant. Il est avec nous autres une fois de temps en temps. Il est très apprécié. On fait une courte pause, puis on revient avec cette discussion-ci.
Marceau, le soir. T'es un fan de podcast? T'es un fan de sport, de char, d'histoire osée. Tu tripes sur l'envers du décor de la musique, sur tes animateurs. On a assurément un podcast pour toi.
Boulevard 102.1.
Les podcasts originaux de Boulevard 102.1. Disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, l'application, le site web, name it.
Boulevard 102.1.
La rentrée avec Rogers, là on jase. Découvrez nos forfaits Internet résidentiels 5G et mobile. Visitez un magasin Rogers ou Rogers.com pour plus de détails.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà, un Ford. On célèbre nos 20 ans. Profitez de l'événement Prix employé pour économiser gros sur les modèles 2024. Obtenez jusqu'à 10 964 $ en ajustement Prix employé sur les F-150 2024 admissibles. Et économisez jusqu'à 6 096 $ sur les véhicules 2024 admissibles de la famille Bronco. Desjardins Auto Collection, rue Marais à Vanier.
Les plus belles histoires d'amour sont sur Elle Fiction.
On y va?
On y va.
Ta chaîne t'invite à t'évader avec une tonne de films romantiques.
Je veux être avec toi.
Et des séries qu'on aime voir et revoir.
Ça fait plaisir de te revoir.
Abonne-toi.
Le vendredi 23 août dès 20h, la NSPW présente son 500e gala de lutte professionnelle au Stade Canac. Assistez au retour officiel d'Untouchable. La famille complète sera réunie pour affronter nul autre que l'Union. Marco Estrada, Matt Angel et le champion NSPW Travis Toxic affronteront Keith Alexander, Matt Falco et Stephen Sullivan. Le Gala Boulevard, vous ne voulez pas manquer ça. Billets en vente sur lepointdevente.com. Une présentation de Pirate Barbecue, La Taverne Grande Allée et Boulevard 102.
Louis, as-tu vu notre preuve d'assurance? Ça fait 20 minutes que je la cherche. As-tu mis ça dans le coffre à gants?
Mais non. Va dans l'app de Desjardins Assurance, ça prend 2 secondes.
Ah ouais?
Regarde, t'as accès à tes documents directs sur ton téléphone.
Non, c'est pratique. Mais à quoi il sert le coffre à gants, d'abord?
À mettre des gants, j'imagine.
Gérez vos assurances comme une pro avec les services mobiles et en ligne de Desjardins. Pour votre soumission, vos réclamations et bien plus, téléchargez l'appli ou visitez desjardins.com/accéder.
Pour la première fois à Québec,
la plus grosse convention internationale de tatouage,
Québec Tattoo Show.
Venez vous faire tatouer avec plus de 400 artistes et des milliers de flashs. Découvrez les dernières tendances en matière de tatouage.
Concours, spectacles musicaux, arts urbains, cracheurs de feu
et encore plus. Préparez-vous à plonger dans un monde
où l'art et l'expression corporelle se rencontrent.
Du 23 au 25 août à Expo Cité. Billets
au québectattooshow.com.
Présenté par Peak Protection
et Paradox Tatouage.
Vous cherchez une activité le fun et différente à faire en famille? Venez visiter Preski à Fleur-de-Lys, le seul centre de ski intérieur au Québec. Débutant ou expert, vivez une expérience unique et sportive tout en développant vos compétences de ski alpin. Preski.ca.
Osez rénover en grand. Confiez votre projet de rénovation résidentielle à Dexon Construction. Notre équipe fiable et talentueuse réalisera vos idées de grandeur en utilisant des matériaux de première qualité. La différence Dexon, un service distingué, personnalisé et un souci du détail inégalé. DexonConstruction.com.
Salut, c'est PA Méthode. Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, avant d'annoncer leurs spéciaux à la radio, ils me les font toujours approuver. Et celui-là, j'ai dit oui.
Vous aussi, vous direz oui. Durant l'événement Go Nissan, obtenez une réduction électrisante jusqu'à 5000 $ sur l'Aria, le plus beau des VUS électriques. Offert en location sur 48 mois, c'est comme payer 99 $ par semaine et fini l'essence.
Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer.
À compte de 1999 $, rabais gouvernementaux admissibles inclus.
Parce qu'en 2024, un ordinateur, c'est pas mal plus commun qu'un Walkman jaune. Votre web radio au blvd.fm.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Samuel Tremblay-Michaud est notre invité du jour. Il est de la soirée, en fait. Il est chroniqueur automobile. Il vient faire son tour une fois de temps en temps dans Marceau Soir. On peut l'entendre dans Gravel dans le retour. C'est un gars qui est très apprécié. Puis, des fois, de temps en temps, il essaie de voler nos jobs en devenant animateur de radio. Merci d'être là, soit dit en passant, mon ami. C'est toujours des belles discussions que j'ai avec toi. Parce qu'on disait que les constructeurs allaient continuer de faire des véhicules électriques, que les gouvernements n'allaient pas nécessairement reculer là, concernant les véhicules électriques. Puis leur certaines décisions qu'ils ont prises. Est-ce que ce sera 2035? Il y en a qui y croient. Est-ce que ce sera... Bon, on va mettre ça à 50 plus. Est-ce que ce sera 2040, 2045? On le sait pas. Mais chose sûre, c'est que ce que je sais, moi, je suis un gars factuel, c'est que bâtir un barrage électrique, c'est entre 10 et 15 ans. Actuellement, il n'y a aucun plan sur la table au Québec pour bâtir un barrage électrique. La façon la plus propre de créer de l'énergie à la grandeur de la planète actuellement, ce n'est pas l'hydroélectricité, c'est le nucléaire. Le nucléaire propre maintenant, le nouveau nucléaire, pas l'ancien qui était très polluant, mais le nouveau. On a à peu près quoi, 19 centrales encore actives à la grandeur du Canada et jamais, même si c'est la façon la plus propre de produire de l'électricité, les politiciens du Québec vont accepter de ravoir une centrale nucléaire. On ne veut pas explorer nos sols non plus, bien qu'on dorme sur du pétrole à côté. On veut pas faire ça. Ils vont faire quoi pour trouver toute cette demande-là en énergie? Quand un Pierre Fitzgibbon d'un bord qui dit « Écoutez, il faut décarboniser l'économie. » De l'autre côté, pas de projet pour ce qui est de trouver de nouvelles sources d'électricité. Puis de l'autre, quand tu parles avec un technicien, je t'en ai déjà parlé, un électricien, c'est-à-dire, lui peut te faire faire des cauchemars. Là. Yann, tu comprends pas. Dans des édifices à condos, il faut tout changer le câblage. Mm-hmm. C'est des années à faire des remplacements. Puis ça, c'est pas encore commencé. Fait que c'est pas vrai qu'un individu va se lever à 2 heures du matin pour aller changer son char de place pour que l'autre puisse prendre sa place.
Non, ça n'aurait pas de bon sens. Malgré qu'on le fait pour le déneigement.
Mais quand t'es dans la misère.
Oui, là. C'est ça. mais non, mais tu sais, puis la question est bonne de se poser comment on va le faire pour cette production d'électricité-là, mais j'ai envie de te relancer en disant, nous, c'est bien beau qu'on se pose ces questions-là, mais on est déjà gâtés en niveau d'électricité, tu sais. Il y a des places dans le monde qui n'ont même pas accès.
Moi, je suis pas gâté, là.
Non, mais t'as peu. Je suis pas en train de dire que toi, personnellement, je surveille la province du Québec, on a du courant.
C'est j'ai 3 filles chez nous. Fait que tu comprends que c'est moi qui surveille les calorifères.
Oui, oui.
Le jour, je m'arrange pour qu'il soit confortable. La nuit, il dort, mais je m'arrange pour bêcher. Je fais vraiment attention.
C'est bien ça.
Le lave-vaisselle, moi, je le pars tout le temps le plus tard possible. Puis il faut que ça dérange le moins de monde possible.
Y'es-tu plein, mettons?
Pour ce qui est de la vaisselle. Comment?
Y'es-tu plein ton lave-vaisselle?
Oui, oui, je suis pas célibataire. Quand j'étais célibataire, j'avais 3 verres à laver. Puis non, pour ça. Mais en famille, t'attends qu'il soit plein.
Ah, oui.
Mais tu sais, je fais déjà mon maximum pour l'environnement. Fait que tu sais, quand Pierre Fitzgibbon me dit là, ça va être 1h du matin. Lave-vaisselle, j'ai juste le goût de dire toi, tu le fais-tu ton lave-vaisselle à 1h du matin? Pense à tous ceux qui habiteront dans des édifices à logement. Si tout le monde porte leur lavage la nuit puis le lave-vaisselle, écoute, ça finira plus. Mais je sais pas pourquoi on est rendu
là. C'est parce que je parlais de gâté, je disais qu'on était gâté au niveau.
Ouais,
mais tu sais, je comprends qu'on a des... Puis je suis le premier à être d'accord, tu sais, on fait déjà des sacrifices, on fait déjà des éléments pour réussir à amener ça, mais on a quand même une production d'énergie au Canada qui est assez bonne, surtout au Québec, puis on le paye, qu'on le veuille ou non, pas cher à notre courant encore. Puis, tu sais, je parlais avec
Ça nous appartient. J'espère que si tu avais une entreprise de linge, tu paierais moitié prix ton linge.
Je suis pas en train de dire que c'est pas normal. Je suis content aussi. Puis j'y tiens. Tu sais, comme je suis d'accord avec tout ça. Je suis pas la personne qui va vous dire faut qu'on monte les prix d'énergie. J'ai moi-même un portefeuille limité. Là, donc, j'y tiens à mon énergie abordable. Là, oubliez ça.
Arrête de leur donner des idées.
Non, mais c'est pas moi qui le dis. Je lis puis je vois ce que les experts nous parlent.
Ils t'entendent des fois.
Je sais. Puis, mais tu sais, au bout de la ligne, quand tu regardes, mettons, des différences de factures, entre ce que nous, on va payer en énergie ici. Puis, tu sais, je parlais avec mon chauffeur en allant à l'événement en Californie. Puis lui, il paye par mois, en US, pour sa maison, 387 $ d'énergie pour sa maison. Puis il dit qu'il y a des panneaux solaires sur le dessus de sa maison pour fournir de l'énergie aussi. Puis, tu sais, il essaie de faire attention.
Ouais, puis au niveau de l'impôt, c'est à peu près la même affaire que nous autres.
L'impôt, ça fait mal. Là. C'est comme les taxes sont élevées. Puis, tu sais, on a une bonne conversation. J'avais un chauffeur bien dynamique. Puis il me chassait ça de long en large. Puis, tu sais, il me parlait à quel point c'était cher. Puis que le coût de la vie là-bas n'avait plus de bon sens. Puis qu'il y avait de la misère à y arriver. Blablabla. Donc, tu sais, un peu le même genre de discours que nous, on a ici également. Donc, tu sais, quand on parle de l'énergie puis les véhicules électriques, il y a toujours cette fine ligne-là à faire attention, c'est qu'on est déjà gâté en courant, c'est ça que je voulais dire, par la quantité de courant, puis le prix qui est là. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait pas, avec le système qu'on a actuellement, subvenir à cette nouvelle demande-là, qui va être magistrale. Ces véhicules-là, tu sais, on parlait du ID Buzz un petit peu plus tôt dans la chronique, puis 91 kWh de batterie, c'est une grosse batterie, là. Ça prend du jus là, pour charger ça. Là. Puis si à un moment donné, on calcule l'efficience d'un recharge, là, ça va être long, puis ça va demander beaucoup de jus pour le faire. Puis là, si tu dis que tout le monde a des ID Buzz, bien là, t'as peu, on va le prendre nous, ce jus-là, pour réussir à charger les véhicules. Donc, je pense que, tu sais, on s'en est déjà parlé aussi, mais tu sais, sur la mentalité de un véhicule par personne, par famille, la transition est vers là. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je trouve ça le fun? Pas du tout. L'idée, par contre, est derrière ça. Puis il faut rien que s'en parler pour être au courant. Puis après ça, mais là, on voit qu'il y a des changements qui se font parce que les gens ont exprimé leur désaccord avec ces nouvelles technologies-là en n'achetant pas les chars. les chars ne se font pas acheter actuellement, puis il y a des autos électriques qui poirotent dans les cours des concessionnaires.
Les territoires plus au nord, les gens qui
habitent. On n'est pas là, il n'y a même pas le réseau. Il n'y a pas le réseau, tu sais. Fait qu'on n'est pas encore là non plus, même ici au Québec. Fait qu'imaginez quand vous sortez du Québec un peu, puis qu'on va dans des pays où que l'électricité est chère, l'électricité n'est pas suffisante déjà sans les véhicules électriques. Puis qu'on fait le calcul de tout ça, puis qu'on se dit, c'est parce qu'on n'y arrivera pas. Là. Puis tout le monde est conscient de ça, je pense.
Oui, mais il y a de belles choses qu'on va pouvoir faire. J'entendais un futurologue, je pense que c'était avec toi, j'en avais parlé aussi, qui disait une fois que tout le parc automobile sera électrique, ils vont pouvoir redistribuer l'énergie. Fait que ta voiture qui ne te sert pas, qui va être dans ton stationnement branché, on va pouvoir aller chercher de l'énergie dans ta
batterie. On va te payer pour, on va donner de l'argent.
On va pouvoir le faire. Je trouve, tu sais, techniquement, sur papier, je trouve ça incroyable. À d'autres, tu te dis, mais oui, mais c'est parce que mon véhicule, je veux tout le temps qu'il reste à peu près un bon niveau d'essence si jamais j'ai une urgence.
Oui.
Fait que ça va être dur à...
Mais je sais que ce que le monde disait, c'est que tu vas pouvoir dire comment tu veux donner, dans le fond.
OK.
Tu sais, tu vas pouvoir limiter la charge qu'on va prendre dans l'énergie de ton véhicule. Fait que, mettons que tu connectes ton véhicule le soir chez toi, tu peux le programmer puis dire, moi, j'autorise un 20% de charge que vous pouvez récupérer.
OK.
Fait que ce 20%-là, ça en va et t'as un retour. Et on va te payer là, pour faire ça. On va payer l'énergie qu'on prend dans ton auto.
J'ai l'impression que je ne verrai pas ça de mon vivant, mais je le souhaite le voir.
T'es encore jeune, Yann. T'as des bonnes chances de le voir.
Si Pierre Fitzgibbon entendait Samuel Tremblay-Michaud là, avant de régler l'histoire des parcs de voitures électriques, là, juste régler le cas des Îles-de-la-Madeleine qui fonctionnent encore au mazout pour ce qui est de la production d'électricité. Ça serait belle fun. Tu reviens de voyage d'affaires. Puis comme tu as la meilleure blonde du monde, tu retournes en voyage d'affaires dans quelques jours.
Oui, plus petit voyage, mais je m'en vais. Puis je peux le dire, mais je peux pas vous parler du véhicule de long en large, mais je peux le dire quand même, je m'en vais tester le Chevrolet Equinox.
OK.
2025. On refait le véhicule.